Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Droite Cité 95.5 FM. C'est Franck avec vous. Nous sommes ensemble pour la deuxième partie de cette émission Voyage à travers les étoiles.
Je vous rappelle que l'émission de cette année présente une particularité puisqu'elle n'est pas enregistrée dans les studios de Radio Droite Cité comme les deux années précédentes, mais elle est enregistrée au Parc aux Étoiles à Triel-sur-Seine. D'ailleurs, je remercie Bernard Lomblot, directeur du Parc aux Étoiles, de nous accueillir.
Nous avons parlé hier de la découverte du système solaire et des galaxies. Aujourd'hui, nous allons parler de la conquête de l'espace. Je vais vous présenter donc les invités que nous avons aujourd'hui. Monsieur Roger Ferlet, président de la Société Astronomique de France, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Philippe Zarca, qui travaille à l'Observatoire de Paris, bonjour.
Bonjour.
Et monsieur Philippe Bordier, qui est membre de l'association Planète Mars.
Bonjour. Bonjour. Puis monsieur Lomblot, bien sûr, qui co-anime l'émission avec moi.
Et qui est directeur du Parc aux Étoiles à Triel-sur-Seine.
Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, nous allons parler donc de la conquête de l'espace. Alors, je crois que monsieur Lomblot est bien placé pour parler un peu de la conquête de l'espace. Donc je vais laisser commencer en premier.
Je ne sais pas si je suis spécialement bien placé, mais c'est un sujet intéressant. C'est quand même quelque chose de nouveau. Enfin, c'est un sujet qui a toujours été dans les esprits quand même. L'idée d'aller ailleurs, voir s'il y a quelqu'un d'autre avec qui parler dans le meilleur des cas ou avec qui faire la guerre dans le pire des cas, cette idée-là, elle a toujours été dans les têtes. Enfin, l'un des plus anciens livres de science-fiction, Le Voyage de Lucien de Samosate, a été écrit il y a un petit peu plus de 25 siècles et il raconte l'histoire d'un voyage vers la Lune et la guerre que s'y font les habitants du Soleil et ceux de la Lune. Enfin, donc l'idée d'aller dans l'espace a toujours existé. Simplement, dans notre siècle, cette idée est devenue faisable pour une raison très simple, c'est que dans l'Allemagne nazie, qui n'avait pas le droit d'avoir des armes classiques à longue portée, on a décidé d'essayer de faire quelque chose avec un gadget. Le gadget en question, c'était la fusée, et on a essayé d'en faire une arme. Et on en a fait effectivement des armes à très grande portée pour l'époque, de l'ordre de 200 à 300 km en 1945. C'était la portée des V2, grosso modo. Les Allemands avaient des projets encore supérieurs de missiles intercontinentaux, et lorsque qu'il y a eu la défaite de l'Allemagne nazie, aussi bien les Américains que les Soviétiques se sont dépêchés de récupérer les scientifiques, les militaires qui travaillaient à la base de Peenemünde, où on fabriquait ces missiles. Et aussi bien les Américains que les Soviétiques ont gardé pendant très longtemps, et dans de très bonnes conditions, il faut le dire d'ailleurs, pas comme des prisonniers de guerre, les scientifiques allemands qui avaient travaillé sur ces armes. Et donc, à partir des mêmes bases, c'est-à-dire la V2, aussi bien les Américains que les Soviétiques ont fabriqué des missiles qui sont ensuite devenus des lanceurs de satellites à partir du 4 octobre 1957. C'est cette année-là, ce jour-là, qu'on a lancé le premier satellite autour de la Terre. Un satellite, ça n'est qu'un objet comme un autre, ça peut être absolument n'importe quoi. C'est juste quelque chose à qui on donne une vitesse suffisante pour qu'il ne retombe pas sur la Terre. Un satellite peut être absolument n'importe quoi à qui on donne une vitesse de 8 km par seconde. Ça peut être un paquet de riz ou un piano à queue. Ça n'a pas d'importance, ça restera un satellite du moment qu'on lui a donné cette vitesse-là.
Et donc à partir de là est partie un peu la conquête de l'espace. Et ensuite, on a donc d'abord envoyé des objets et ensuite il y a eu des êtres vivants. Mais avant les hommes, je crois que c'était des animaux qu'on a envoyés dans l'espace.
Oui, le premier être vivant à avoir été lancé dans l'espace, c'était juste un mois après Sputnik 1. C'était une chienne, Laika, que les Soviétiques ont mis à bord de Sputnik 2 et qui a tourné autour de la Terre pendant une semaine avant d'être euthanasié. Mais c'était tout simplement fait pour voir comment réagissait un organisme vivant à l'absence de pesanteur. Aujourd'hui, on sait tout ce genre de choses. On sait très bien qu'un homme, en absence de pesanteur, peut boire, manger, dormir, que sais-je. Alors qu'à l'époque, la question se posait totalement de savoir ce qu'on pourrait faire. De grandes questions étaient posées. Est-ce qu'on peut déglutir dans l'espace? Est-ce qu'on peut nourrir un astronaute? Au bout du compte, on sait que oui. Mais surtout, ce qui a été important, c'est que la conquête de l'espace a été quelque chose qui a fasciné, qui a fait très peur. C'est-à-dire que dès le lendemain du lancement de Sputnik 1, les États-Unis, tous les journaux américains titraient « Les Rouges peuvent nous bombarder ». C'était quelque chose de très important pour, dans l'époque de la guerre froide qui régnait. Et puis, surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait un prestige énorme à pouvoir mettre un satellite en orbite, éventuellement un être vivant, encore mieux, un homme. Et donc, à partir de ce moment-là, la conquête de l'espace se confond en fait avec l'histoire de la guerre froide. L'histoire de la conquête de la Lune, c'est uniquement un épisode, une bataille, si j'ose dire, de la guerre froide, et malheureusement rien d'autre. C'est essentiellement la lutte à laquelle se livraient les deux super grands, qui, au lieu de la livrer sur Terre, encore que dans certains endroits ça se faisait, au lieu d'avoir une guerre chaude sur Terre, se contentaient en fait d'une guerre froide sur Terre et avaient une guerre chaude dans l'espace, si j'ose dire.
Oui.
Oui, alors, quand on parle de la conquête de l'espace, c'est vrai que, enfin avec le public notamment, c'est vrai que très très souvent, on pense à la conquête humaine en fait, de l'espace. On pense à l'homme sur la Lune et puis dans le futur peut-être sur Mars. Bon. Mais en fait, d'une part, du point de vue des scientifiques, d'une part, c'est assez controversé, faut-il des hommes dans l'espace ou faut-il des engins automatiques? Et la meilleure preuve en est que ce dont on parle beaucoup plus rarement, c'est qu'à partir de 1958, et puis ensuite dans les années 60-70, il y a eu une autre conquête de l'espace par des engins automatiques. Alors, ce qu'on connaît tous, c'est évidemment l'aventure des sondes voyageurs qui ont été visiter toutes les planètes géantes. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce qui a été très important dans la conquête de l'espace, ça a été le fait que les premiers satellites qui ont été en orbite terrestre ont découvert un environnement de la Terre qui s'est révélé ensuite exister autour des autres planètes qui était tout à fait insoupçonné, ou du moins tout juste soupçonné, dans lequel on n'avait aucune preuve. C'est-à-dire que, par exemple, en 1958, on a découvert des particules chargées des électrons et des ions très 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 énergétiques, en très grande quantité, répartis dans des espèces de boudins autour de la Terre, de ce qu'on a appelé des ceintures, les fameuses ceintures de Van Allen. Ces particules sont piégées dans le champ magnétique terrestre. On s'est aperçu que l'espace autour de la Terre, comme autour des autres planètes, n'était pas vide. On s'est aperçu que le Soleil émettait en permanence un vent de particules, qu'on a appelé le vent solaire, et qui donne naissance aux queues des comètes, enfin à l'une des queues des comètes, la queue de plasma bleu. On s'est aperçu que le champ magnétique des planètes sculptait en fait dans ce vent de particules une bulle autour des planètes qu'on a appelé les magnétosphères. Et en fait, tout un nouveau pan de la physique a commencé à se faire en fait dans cet environnement. Et finalement, l'espace interplanétaire s'est transformé en une espèce de gigantesque extension des laboratoires de physique qu'on avait au sol. Et ça, c'est aussi extrêmement important. Et ce qu'on fait dans cet espace en fait est très riche du point de vue de la physique. Et l'intérêt d'y mettre des hommes, et on en discutera plus tard, je pense.
Mmh. Mais justement, on va en discuter donc maintenant, l'intérêt de mettre des hommes dans l'espace. Alors, le premier homme dans l'espace, c'était le 12 avril 1961, avec Yuri Gagarin, à bord de Vostok 1. Je ne sais pas qui pourrait en parler plus en détail, notamment.
Il n'y a pas grand-chose à dire sur Yuri Gagarin. C'est un militaire qui a effectué une mission qu'on lui demandait d'effectuer. En dehors de ça, il avait été inscrit quelques semaines avant au Parti communiste, de façon à être quelqu'un qu'on puisse montrer au reste du monde. Enfin, Gagarin a été, à mon sens, essentiellement un cobaye. On aurait pu le remplacer par un cochon d'Inde sans aucune difficulté. Et le cochon d'Inde aurait survécu, tout comme Gagarin l'a fait. Les premiers vols humains dans l'espace présentaient peu d'intérêt vu de nos jours. Bon, c'est vrai que c'était un domaine totalement neuf à défricher, mais la totalité de ce qui s'est fait dans l'espace pendant les 5 premières années, eh bien, ça revient grosso modo à ce qu'on fait maintenant en une mission à bord de Mir ou une mission de navette en tant que danger, découverte d'autres perceptions, etc. Non, ce qui pour moi est intéressant, c'est que le vol de Gagarin a servi de détonateur. Le vol de Gagarin, c'est le 12 avril 61. Trois semaines après, les États-Unis essayent de débarquer à Cuba pour démanteler le régime de Fidel Castro. C'est un échec. Alors à ce moment-là, Kennedy décide de lancer le défi de l'homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Et ce défi, bon, qui a été une réussite absolument fabuleuse du point de vue scientifique, industriel et militaire qui a vraiment été conduit comme une vraie bataille. Ce défi est arrivé, à mon sens, beaucoup trop tôt. Si on n'était pas allé sur la Lune avant 1970, eh bien on aurait envoyé des hommes dans l'espace, et puis petit à petit, on aurait construit une station orbitale. Et aujourd'hui, il est vraisemblable qu'on serait en train d'entraîner les premiers hommes pour aller sur la Lune. Et je pense que le programme se déroulerait nettement mieux dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens qu'il n'a pas eu. Là, on est allé sur la Lune, et puis une fois qu'on y était, une fois qu'on avait posé un drapeau, qu'on avait rapporté 400 kilos de roches, on s'est dit, bon, ben, ça suffit, ça coûte trop cher, on abandonne tout, et puis on va se lancer vers un lanceur renouvelable. Peut-être qu'il aurait fallu prendre le problème à l'envers.
Peut-être, oui, tout à fait. Alors, il y a différents organismes qui s'occupent de ça, notamment la NASA. Et puis, au niveau français, il y a l'Agence spatiale européenne, plus communément appelée l'ESA. Et on va tout d'abord faire une pause musicale. Et juste après donc, cette pause musicale, on écoutera l'interview de M. Sergio Volonté de l'Agence spatiale européenne. De retour ici, dans la salle de conférence du Parc aux Étoiles pour l'émission Voyage à travers les étoiles. Alors, juste avant la pause musicale, donc, je vous disais qu'on va écouter maintenant l'interview de Sergio Volonté de l'Agence spatiale européenne. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît.
Je m'appelle Sergio Volonté, je suis belge, je travaille à l'agence depuis 14 ans dans le programme scientifique. Je m'occupe effectivement de la préparation de toutes les futures missions d'astronomie. Donc je suis le coordinateur de ces missions. L'Agence spatiale européenne, en fait, résulte de la fusion de deux organisations qui avaient été créées au cours des années 60. L'ELDO, qui était une organisation européenne pour le développement d'un lanceur, et l'ESRO, Organisation européenne de recherche spatiale. Et ces deux organisations ont été fusionnées au milieu des années 70 pour former ce qui est devenu maintenant l'Agence spatiale européenne. L'agence comporte maintenant en tout 14 pays. Grosso modo, ce sont les pays qui font partie de l'Union européenne. Le Portugal vient d'entrer, ce qui va faire notre 15e membre.
Dans quel but l'Agence spatiale européenne a-t-elle été créée ?
C'est de développer, pour des raisons strictement pacifiques, les capacités dans le domaine spatial, en particulier les technologies spatiales, et également développer des capacités industrielles pour rendre l'Europe tout à fait compétitive dans le domaine de l'aérospatial.
Quelles sont les différentes activités de l'ESA ?
D'abord, il faut comprendre que l'ESA comporte toute une série de programmes. Et il y a deux catégories de programmes. D'abord, ce qu'on appelle les programmes obligatoires, c'est-à-dire des programmes qui sont obligatoirement financés par tous les pays membres de l'agence. Et puis, il y a des programmes facultatifs. En ce qui concerne les programmes obligatoires, nous avons d'abord le programme général, c'est-à-dire le programme qui permet de financer l'infrastructure de l'agence, la recherche technologique, les études des projets futurs essentiellement. Et l'autre programme obligatoire qui en fait est constitué en lui-même, je dirais presque l'épine dorsale de l'agence, c'est le programme scientifique qui est consacré essentiellement à la recherche fondamentale dans le domaine spatial. Dans les programmes facultatifs, la situation est différente parce que comme le mot l'indique, les pays membres ne sont pas obligés de participer à ces programmes. Ils décident, en fonction de leurs intérêts industriels, de participer ou non à ces programmes. Un pays peut très bien décider de ne pas participer, par exemple, au programme des lanceurs. Maintenant, au niveau des programmes facultatifs, nous avons toute une série de domaines qui sont considérés. D'abord, les télécommunications, le domaine de l'observation de la Terre, le développement des lanceurs, et puis le développement des plateformes, et en particulier la participation européenne à la station spatiale.
Quel rôle joue l'ESA dans la conquête de l'espace ?
Écoutez, je pense que l'ESA, en fédérant les capacités spatiales de tous les pays européens, a permis à l'Europe de se positionner d'une manière visible et importante dans toute une série de domaines, notamment dans le domaine scientifique, où maintenant, nous pouvons dire que l'Europe a des positions prééminentes, par exemple dans le domaine de l'exploration des comètes ou dans le domaine de l'astronomie infrarouge spatiale ou de l'astronomie des hautes énergies. L'Europe a également développé des capacités notable dans le domaine des applications, en particulier dans le domaine de la météo, dans le domaine des télécommunications également, dans le domaine de l'observation de la Terre. Alors, les autres programmes, bien entendu, c'est le programme de participation à la station spatiale avec un laboratoire Columbus, qui sera un des éléments importants de la station spatiale, et également un véhicule de transfert, l'ATV, qui permettra d'amener jusqu'à 9 tonnes de matériel vers la station spatiale. Donc ça également, c'est un des éléments que l'agence développe dans le cadre de sa participation à la station spatiale internationale.
Voilà, donc interview de Sergio Volonté. Est-ce qu'il y en a qui voulaient rajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit dans cette interview?
On peut rajouter un mot, par exemple, en complément de ce que Sergio Volonté disait à la fin sur la participation importante de l'ESA à la découverte scientifique. En ce moment même, il y a une sonde spatiale qui s'appelle Cassini, qui est en route vers Saturne et qui va bientôt survoler Jupiter, en fait, qui va survoler Jupiter le 31 décembre de cette année, c'est-à-dire au tournant du millénaire. Et cette sonde se dirige vers Saturne, autour de laquelle elle va se mettre en orbite pendant 4 ans. Et en fait, elle est formée de deux parties. Une partie qui va donc être en orbite, qui est donc l'orbiteur et qui est sous la responsabilité de la NASA, mais avec beaucoup d'équipes mixtes et beaucoup de scientifiques européens dans les équipes scientifiques associées. Et puis une partie qui va plonger dans l'atmosphère du gros satellite Titan de Saturne et qui, elle, est sous la responsabilité de l'ESA et de l'Agence spatiale européenne et qui emporte 6 expériences scientifiques. Ça arrivera mi-2004.
Donc en fait, l'ESA et la NASA travaillent conjointement ensemble. Oui, monsieur Brody.
Dans ce cadre-là, j'aurais volontiers rappelé aussi qu'il y a un satellite qui est toujours opérationnel, qui s'appelle SOHO, qui est placé donc à ce fameux point de Lagrange entre le Soleil et la Terre, à 1,5 million km de la Terre, et qui prend actuellement des photos absolument extraordinaires du Soleil, et qui nous permet et va nous permettre de faire des progrès considérables dans la connaissance non seulement du Soleil, mais je crois aussi de la connaissance de notre système solaire en général et notamment des interactions entre le Soleil et la Terre.
Je voulais juste ajouter que l'ESA, c'est au niveau de l'Europe, mais au niveau de la France, il existe aussi le Centre national d'études spatiales qui réalise des satellites artificiels. Par exemple, en ce moment, il y en a un qui est en projet ou en construction qui sera lancé. Bon, malheureusement, il y a du retard à cause du financement, mais qui sera lancé dans quelques années, qui s'appelle Corot. Et ce satellite-là, il est dédié à deux grandes choses. Premièrement, étudier les oscillations des étoiles, comme on a déjà observé sur le Soleil. Et deuxièmement, détecter des planètes extrasolaires par la méthode du transit. C'est-à-dire une planète qui passe entre nous et son étoile. Ça fait diminuer très légèrement la luminosité de l'étoile. Et ce satellite-là devrait en découvrir des dizaines et des dizaines.
Très bien. Monsieur Nomblot, vous voulez rajouter quelque chose sur...
Si, quand même. Dans les programmes de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, qui m'ont marqué, il y a eu le lancement et la très belle réussite de la mission du satellite Hipparchos, qui est un satellite d'astrométrie. L'astrométrie, c'est un sujet aride qui consiste à mesurer le plus précisément possible les mouvements des étoiles. Et les travaux des scientifiques, à partir des données recueillies par ce satellite, ont permis de cartographier, avec une précision bien meilleure que ce qu'on avait précédemment, les étoiles, la position des étoiles, les distances, les mouvements propres des étoiles jusqu'à environ une centaine d'années-lumière. C'est-à-dire, c'est un petit peu plus loin que la proche banlieue du Soleil. Ça permet déjà d'avoir des idées intéressantes sur ce que sont les mouvements des étoiles. Et c'est un travail phénoménal. Ça a été réellement une révolution que d'avoir les données de ce satellite, où maintenant on peut savoir parfaitement bien que telle étoile n'est pas à 150 ou 170 années-lumière, mais à 153,2 par exemple. Ça satisfait toujours l'amateur de ce genre de choses.
Ça donne en effet des chiffres précis sur la distance. Très bien, je pense qu'on va conclure cette émission, à moins qu'il y en a qui voulaient rajouter quelque chose sur la conquête de l'espace.
On peut juste rajouter qu'en juillet-août vont être lancés les 4 satellites de la mission Cluster, qui va justement étudier à partir de 4 points l'environnement magnétisé et ionisé de la Terre. Et on espère nous apprendre pas mal de choses sur, sur la structure de cet environnement et puis la physique qui s'y déroule.
Ainsi se termine cette deuxième partie de cette émission Voyage à travers les étoiles.